Je vais vous parler d'un sujet que vous connaissez un petit peu sûrement, mais qu'on a besoin de réaliser. C'est le fonctionnement de l'être humain, comment nous fonctionnons, comment Dieu nous a créés. Et nous trouvons un principe intéressant dans 1 Thessaloniciens 5, 17. On va prendre le verset 23 plutôt. 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, alléluia, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans ce verset, nous avons vraiment la mise en place de la façon dont Dieu nous a créés. Nous sommes en trois parties, hein. Nous sommes esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Je voudrais vous le répéter. Nous sommes esprit. Vous savez que le Saint-Esprit vit en nous. Dieu est venu, il a soufflé dans la vie d'Adam et il est devenu une âme vivante. Lorsque Jésus est venu, il a soufflé sur ses apôtres et ils sont nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit et notre esprit qui était mort. Chaque personne, la Bible nous dit que tous les hommes ont péché et sont privés de l'Esprit de Dieu, de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'ils viennent à Christ, eh bien, leur esprit naît de nouveau, ça veut dire la vie de Christ revient. Qu'est-ce qui naît de nouveau dans votre vie, dans ma vie? C'est l'Esprit de Dieu qui vient dans ma vie, pardon. Qu'est-ce qui naît de nouveau dans ma vie? C'est mon esprit. Je reviens, hein? Mon esprit, l'esprit du Dieu vivant habite en vous. C'est pourquoi votre esprit est vivant. Comment est-ce que l'être humain est fait? L'être humain est esprit, il est esprit et cet esprit a une âme. Vous voyez? Il est esprit, l'être humain, et il a une âme. Ça veut dire l'esprit qui vit en nous a une âme. Et tout cela vit dans un corps. Que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés purs pour l'avènement du Seigneur. Alors je voudrais vous dire une chose, parce que vous allez voir et vous le savez que ces trois parties ne fonctionnent pas de la même façon. L'esprit en nous, nous sommes esprit, l'esprit est né de la parole de Dieu. Notre esprit est né par la parole de Dieu. Et notre corps, lui, eh bien, il marche avec les cinq sens. Il vit et il obéit à ce qu'il ressent. Il obéit à ce qu'il touche, au toucher, à ce qu'il voit. Vous voyez? Ça, c'est les sens, c'est nos sens. Donc, il y a deux situations totalement différentes. Il y a notre esprit, mon esprit, je suis esprit, et mon esprit, il est attaché à la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour que mon esprit vive, il a besoin de cette nourriture qui s'appelle la parole de Dieu. Sur la terre, il y a toute une abondance pour nourrir mon corps. Mais la seule chose qui peut nourrir mon esprit, c'est la parole de Dieu. Cette Bible-là, que vous avez entre vos mains, que vous n'avez pas, mais que vous devriez avoir, chers amis, prenez votre Bible, parce que cette Bible-là, c'est la seule nourriture pour votre esprit. Si vous voulez que votre esprit se développe et prenne sa place, eh bien, il vous faut recevoir la parole de Dieu. Il vous faut venir à l'église recevoir l'enseignement de la parole de Dieu afin que votre esprit soit nourri. Et il vous faut vous-même vous nourrir de la parole de Dieu afin que votre esprit reçoive sa nourriture tous les jours. Vous voyez, si je ne nourris plus mon corps, eh bien, je vais avoir une taille fine, hein, et je vais être toute mince et je vais être très faible, hein. Coupez-vous de la nourriture, privez-vous de votre nourriture et vous verrez la fatigue et comme vous allez manquer de tout. Si vous privez votre esprit de la nourriture que Dieu nous a donnée, qui est la parole de Dieu, la seule chose sur cette terre pour nourrir votre esprit, eh bien, vous allez devenir extrêmement faible spirituellement. Et donc, je voudrais vous dire quand même quelque chose d'important. Et pour cela, je vais l'illustrer avec mes frères et sœurs, là. Nous sommes esprit, mon esprit a une âme et il vit dans un corps. Bon, alors regardez. Mon frère, tu te mets là. On se tient. Voilà. Alors, Laurent, tu es l'esprit, tu es esprit. Tu es la partie humaine qui s'appelle l'esprit. Moi, je suis l'âme et Marie-Maud est le corps. Bon. Alors, l'esprit reçoit la parole de Dieu. Hein? Donc, l'esprit va communiquer. Si l'âme est attachée à l'esprit, vous voyez comme je suis attachée à l'esprit là, je tiens bien Laurent, hein, Laurent. Qu'est-ce qui se passe? Je reçois la parole de Dieu. Je me nourris de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand je me nourris de la parole de Dieu? Ah, je me sépare du corps. Il a plus d'influence sur moi puisque là, c'est les cinq sens qui fonctionnent. Hein? Avec le corps, et l'esprit et l'âme se nourrissent ensemble et de la parole de Dieu. Donc mon âme est transformée, mon âme est renouvelée par la parole de Dieu. Vous voyez ? Donc je deviens forte et mon corps, eh bien, il est à sa place. Il est l'instrument pour marcher, pour vivre, pour servir Dieu. Mais c'est pas lui qui va diriger les choses. Lorsque mon âme marche dans la chair, hein, et obéit aux cinq sens, et commence à marcher avec une autre conception que la parole de Dieu, ça veut dire, va prendre le choix du ressenti, de la pensée humaine, de tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe dans mon âme? Hop, elle se sépare de l'esprit, et qu'est-ce qui se passe? Elle s'attache à la chair. Et l'esprit n'a plus de puissance. Alors on devient comme ça, charnel. Et vous voyez, c'est un processus, mais je crois que c'est bien imagé. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous restions attachés à l'esprit et que notre âme, qui elle a le choix, eh bien, choisisse la parole de Dieu. Donc automatiquement, eh bien, mon corps, il reste à sa place. Il est un serviteur, mais c'est pas lui qui va gérer et diriger toute chose. Parce que le corps, quand je dis le corps, c'est la partie de l'âme qui ressent, qui voit, qui marche avec les cinq sens. Et quand on parle du corps, c'est pas uniquement l'enveloppe, mais c'est également la partie charnelle. Vous comprenez? Donc la partie de l'âme, c'est le choix. Votre âme choisit. C'est très important de comprendre cela. Vous avez le choix. Dieu nous a créés avec le choix. Nous pouvons choisir. Soit nous marchons avec la parole de Dieu, soit nous marchons avec ce qu'on ressent, ce qu'on voit dans le naturel, et automatiquement on se sépare de l'esprit. Vous comprenez? Dieu nous appelle à marcher dans l'esprit, à marcher par l'esprit. Alléluia. Pour cela, il faut être né de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, eh bien, vous avez la parole de Dieu, vous la recevez, vous avez faim et soif de la parole de Dieu. Parce que votre esprit a été conçu pour être nourri par la parole de Dieu. Sur la terre, vous êtes esprit, votre esprit a une âme et vous vivez dans un corps. Sur la terre, personne ne peut vivre sans un corps. C'est pourquoi les démons essaient d'entrer dans les corps, de façon à diriger les gens sur la terre et à avoir de l'autorité. Mais lorsque nous sommes chrétiens, les démons n'ont plus de pouvoir sur nous, parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui a autorité sur les démons si nous marchons dans l'Esprit. Chaque fois que votre âme choisit la chair, eh bien elle passe sous l'autorité du Dieu de ce monde. Et le Dieu de ce monde, c'est Satan. Hein ? Chaque fois que vous choisissez d'écouter votre âme, qui est contraire, je parle l'âme quand elle est contraire à la parole de Dieu, quand elle se met à douter, quand elle se met à avoir ses propres conceptions, quand elle marche dans la jalousie, dans la haine, dans le fait de se venger, dans la critique, dans les mauvaises choses, votre âme, eh bien, se tourne vers ce qu'on appelle la chair et se sépare automatiquement de l'influence de votre esprit. Mais ce que Dieu veut, eh bien, c'est que vous soyez attaché à l'esprit, que votre âme choisisse la parole de Dieu, et ainsi, lorsque votre âme choisit la parole de Dieu, c'est cette influence qui va diriger votre vie, et à ce moment-là, les trois parties sont équilibrées. Mais le choix, c'est je choisis la parole, parce que j'ai la responsabilité de me nourrir. Et si mon esprit n'est pas nourri, eh bien mon âme, elle va prendre le dessus, et automatiquement, je serai déconnecté de l'esprit. Est-ce que ça vous parle ce matin? Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, c'est très important, mes choix. Alors mon âme, c'est quoi? C'est le siège de mes sentiments, de mes émotions, de ce que je ressens et de ma décision. Vous voyez, Dieu a créé l'être humain libre de choisir. C'est pas mon esprit qui choisit et c'est pas mon corps qui peut choisir, ma chair qui peut choisir. C'est moi, dans le domaine de mon âme, qui fait des choix. Vous voyez, mon esprit, lui, il est né de nouveau. Il est attaché à la parole de Dieu, mais les choix se passent au niveau de mon âme. C'est pourquoi nous sommes responsables. La Bible nous dit, nous passerons tous devant le tribunal de Christ et nous rendrons compte pour notre vie, hein, selon ce que nous aurons fait. C'est pourquoi j'ai le choix. C'est pourquoi on ne peut pas dire que les chrétiens sont des innocents ou sont irresponsables. En tant que chrétien, j'ai des responsabilités. Naturellement, ces responsabilités sont en fonction de la connaissance que j'ai. Un jeune chrétien n'a pas la même responsabilité qu'un chrétien de 20 ans comme moi et plus, hein, plus, je dois dire, hein. Donc, vous voyez, un chrétien est responsable selon la connaissance qu'il a. Et le Seigneur dit, ton âme a toujours eu le choix. C'est toi qui fais les choix. Soit tu choisis d'écouter ta chair et de rester au lit le matin si tu as un petit rhume, ou tu choisis de négliger les choses de Dieu, ou tu choisis de mettre la parole de Dieu de côté, ou tu choisis par respect pour Dieu, par honneur pour Dieu, de te t'attacher à ton esprit et de dire « Je comprends que sur cette terre, je n'ai qu'un seul moyen de me nourrir, c'est de recevoir la parole de Dieu. Si je veux nourrir mon esprit, » mon esprit, lui, s'attache à la parole de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Il désire la parole de Dieu. Donc, mon âme va faire le choix de dire oui. Oui, je dis oui à mon esprit. Je me nourris. Je prends cette Bible. Je vais à l'église. Je reçois et je grandis. Amen. Vous voyez, j'espère que je suis claire. Le choix est le nôtre. Le choix nous appartient. Dieu nous a créés libres. Vous voyez, je réfléchissais à ce message et je pensais à une image terrible, mais qui correspond. Vous voyez, Dieu respecte tellement l'être humain. Dieu aime tellement les hommes. Il les a créés avec un tel amour et une telle liberté que ce choix de choisir le bien ou le mal, il nous l'a laissé. C'est pour ça qu'il a mis ce fameux arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Mais écoutez, une image terrible. Pensez au camp de concentration. Est-ce que les gens avaient le moindre choix? Est-ce qu'ils avaient le moindre choix? Aucun choix. Le monde de Satan, aucun choix. L'homme croit qu'il a des choix, il n'en a pas. Sa destinée, c'est l'enfer, où il sera tenu exactement comme ces malheureux gens étaient tenus dans les camps de concentration. Ils seront dans la souffrance et dans le feu. L'enfer est un mauvais endroit pour aller. Je souhaite qu'ici, personne n'y aille, hein, au nom de Jésus. Mais si vous êtes à Christ, c'est terminé, vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit. Si vous n'avez pas mis Christ dans votre vie, vous pouvez craindre. Ouvrez votre cœur et recevez Christ, parce que ça vous garantit de la vie éternelle. Mais vous voyez, cette image est forte, mais je réfléchissais à ça en venant, je me disais, mais ces gens n'avaient même pas le choix de crier pour garder leurs enfants, leurs femmes, leurs maris. Ils étaient sous une domination horrible, et ils survivaient jour après jour, on peut dire heure après heure. Et ils n'avaient aucun choix. C'est une image forte, mais cela vous montre combien Dieu nous a créés avec le choix. Combien mon âme, elle a le choix. C'est-à-dire, la partie de moi qui est consciente, elle a le choix. Et quand je choisis de nourrir mon esprit, je fortifie mon esprit et je deviens spirituel. Alléluia. Mais quand je choisis de honorer la chair et le monde de la chair avec tout ce qu'il comporte et qui n'est pas soumis à Dieu, car la chair ne peut se soumettre à Dieu. Elle ne peut pas. C'est impossible. Elle est créée de façon à ne pas, elle n'est pas créée, mais elle est faite de façon à résister à Dieu, puisque c'est là qu'habite le péché. Le péché a été crucifié. Jésus est mort, il a accepté d'être crucifié dans sa chair, il a porté le péché dans sa chair, le péché a été crucifié dans sa chair, alléluia, afin que le péché n'ait plus de pouvoir sur vous ni sur moi. Par ma foi en Jésus, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Pourquoi? Parce que j'appartiens à Christ et que par la foi j'ai reçu son salut, donc je n'ai plus, le péché n'habite plus en moi. Mais si je m'affectionne aux choses de la chair, eh bien je m'affectionne aux choses qui apportent la mort en moi. Et il y a une partie de moi qui va mourir, hein, parce que ça va vivre, la vie, la sorte de vie que cette chair va produire, c'est la mort. Ça veut dire la mort spirituelle, je vais m'éteindre dans mon esprit. Vous me suivez? Bien que l'Esprit de Dieu habite en moi, la partie de moi qui va s'affectionner à la chair va produire de la mort. Ça veut dire que la mort, ça veut dire aussi ne pas réussir, ne pas marcher dans les voies de Dieu, ne pas prendre ce qui nous appartient, ne pas vivre dans la volonté parfaite de Dieu. On a vu hier soir, on a étudié un verset qui se dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. » Ça veut dire la volonté de Dieu, quand vous êtes du côté de votre esprit, que vous alimentez votre esprit avec la parole de Dieu, eh bien la volonté de Dieu pour vous, elle va être bonne. Les bontés de Dieu vont habiter dans votre maison. Le bien que Dieu peut vous faire sera là tous les jours, parce que Dieu est bon et ses bontés se renouvellent pour vous chaque matin. Les bontés de Dieu vont se renouveler dans votre vie chaque matin, parce que Dieu est bon pour son peuple. Dieu nous aime, il est bon. Et donc, sa volonté, elle est bonne. Ça veut dire, Dieu veut que vous ayez une bonne vie, que vous éleviez bien vos enfants, que vous ayez de quoi les nourrir, les habiller, leur donner une bonne éducation. Dieu veut que vous prospériez, que vous ayez un bon travail. Dieu veut que votre vie soit bien équilibrée, que vous ayez une bonne santé. Bon, la volonté de Dieu, c'est ça. Dieu est bon et votre vie sera agréable. Ça veut dire que Dieu veut pas qu'on passe notre vie à souffrir, à pleurer, à être des victimes. Il veut que nous profitions de la vie, que nous apprécions la vie. Et pour cela, il faut changer notre mentalité. On a vu ça hier soir. Notre mentalité doit changer. Nous, les femmes en particulier, mais les hommes aussi, tout le monde a besoin de changer de mentalité et de ne plus être une victime, mais d'être au contraire un champion, une championne pour Dieu. Et pour cela, j'ai un choix à faire. Je dis à mon âme, tu t'affectionnes aux choses de Dieu. Tu t'affectionnes à l'esprit. Tu sais que ton esprit, il a besoin d'être nourri parce que tu es sur la terre et que Dieu a donné le seul moyen de nourrir ton esprit, c'est la parole de Dieu. Cette parole, elle a été convoitée. Cette parole, elle a été attaquée. Cette parole, elle a été sujet de mort et de torture et de violence. Parce que le diable, dans ces régions où vous vivez ici, eh bien, il était contre la parole pendant des siècles. Seul le roi avait l'autorité sur l'église. Et les chrétiens qui lisaient la parole de Dieu, ils allaient au bûcher, où ils étaient ils avaient le truc de la roue, où on les écartelait, etc. Faut connaître un peu l'histoire de votre pays. C'était pas rigolo pour les chrétiens à l'époque, hein. Mais voyez, aujourd'hui, nous sommes dans les temps où Jésus revient bientôt. Il y a la liberté. Il y a la liberté de lire votre Bible, de proclamer l'évangile partout. Il y a la liberté. Ça n'a pas été toujours le cas. Est-ce que vous le réalisez? Ça n'a pas été toujours le cas. Peut-être dans votre pays, vous frères et sœurs qui venez de l'Afrique ou des îles, il y a une liberté plus grande pour l'évangile. Mais dans ce pays, il n'y a pas eu toujours la liberté. Vous le savez bien, il y a eu beaucoup d'oppression sur l'évangile. Je parle sur l'évangile, je ne parle pas de religion. Mais les chrétiens, les vrais chrétiens qui lisaient leur Bible, qui étaient nés de nouveau, ont été persécutés pendant des siècles, ils ont dû fuir. Hein? Aujourd'hui, il y a une grande liberté. Alors nous sommes responsables de cette liberté. Je suis responsable d'avoir une Bible. On peut me la donner si je n'en ai pas. Si je n'ai pas momentanément de l'argent pour l'acheter, on peut me la donner. Je dois avoir une Bible. Et cette Bible, j'ai la responsabilité de l'ouvrir. J'ai la responsabilité de la lire, de découvrir ce Dieu. Qu'est-ce qu'elle me raconte, cette Bible? De quoi parle-t-elle? Alors vous allez dire, ouais, mais il y a d'autres livres. Il y a le Coran, il y a ci, il y a ça. Non, non. Il y a un seul livre, c'est la Bible. Elle est inspirée par l'Esprit de Dieu. C'est clair dans votre tête. Il y a un seul livre, c'est le livre qui s'appelle la Bible. Il y a 66 livres, il y a des écrivains qui ont été inspirés par Dieu et qui nous parlent du Dieu de la Bible qui est le Dieu d'Israël. Alléluia. Et que cette parole soit bien dans votre cœur. Ne doutez pas de la Bible. N'écoutez pas les destructeurs qui vont raconter des choses. L'Esprit de Dieu a inspiré les écrivains de la Bible. Ce sont des prophètes, ce sont des laboureurs, ce sont toutes sortes de gens extraordinaires qui ont écrit la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Moïse a été un grand écrivain des premiers livres de la Bible. Honorez la Bible et respectez-la. N'écoutez pas l'esprit de ce monde qui veut vous raconter des choses contre les livres saints. Il n'y en a qu'un seul. Un seul livre. Alléluia. Le livre. Hein? Le livre. Alors, aimez cette Bible, ayez la... Comprenez que vous avez la responsabilité de la connaître et que vous avez la responsabilité de venir à l'église pour nourrir votre esprit. Amen. Alors j'aimerais qu'on lise quelques passages maintenant pour nous attirer aux choses de l'esprit, alléluia, afin que nous comprenions bien que notre esprit croit la parole de Dieu, hein, et que donc il a besoin d'être alimenté, notre esprit, par la lecture de la parole de Dieu, par l'écoute de la parole de Dieu, par la vie de l'église locale, alléluia, afin que notre âme soit désireuse de s'attacher à notre esprit, alléluia. Alors, on va prendre quelques passages dans Matthieu 4. On va prendre Marc 4, pardon, Marc. Il faut que vous sachiez que cette parole, le diable en a peur. C'est important que vous le sachiez. Le diable a peur de la parole. Il ne veut pas que vous la lisiez. Et il va faire toutes sortes de choses pour vous empêcher de la lire. Et le Seigneur a été clair lorsqu'il a parlé de la parole. Il a expliqué clairement ce qu'il en est. Marc 4, on va prendre le verset 3. Et il va donner une image. Vous savez, il parle en parabole, le Seigneur. Et il va donner une image à toute la foule qui est devant lui. Jésus est devant la foule. Il y a une grande foule et il y a ses disciples dans la foule. Et il va donner cette parabole. Il va dire, écoutez, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux. Elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt et ne trouva pas un sol profond. Alors le soleil vint et aussitôt, eh bien, cette semence fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Mais une autre, alléluia, partie tomba dans la bonne terre. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle donna du fruit qui montait et croissait et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Voilà une parabole, une semence qui est semée dans des terres différentes, hein, le long du chemin, dans un endroit pierreux et puis parmi les épines et autrement dans la bonne terre. Qu'est-ce que c'est la terre? La terre, c'est notre cœur, c'est notre choix. C'est quand mon âme choisit la parole de Dieu, alors la terre de mon cœur, elle devient meuble, ensemencée. Dieu peut la libérer des grosses cailloux, des grosses pierres qu'il y a dans cette terre de mon cœur. Il peut commencer à aplanir, il peut commencer par enlever les douleurs, les souffrances, les épines, les amertumes. Il peut déraciner le péché, déraciner les mauvaises habitudes, libérer mon cœur et ma terre devient tendre. Est facile à travailler, si bien que la semence va pouvoir tomber dans cette bonne terre. Mais lorsque cette semence tombe dans la mauvaise terre, qui est le cœur, qui n'est pas affermi, elle ne pourra pas prendre. Alors les disciples se disent, qu'est-ce que c'est que cette parabole? Explique-nous, on ne comprend pas. Et le Seigneur va dire clairement, regardez avec moi. Le Seigneur va dire clairement au verset 15, le semeur, c'est celui qui sème la parole. C'est Jésus. Il sème la parole dans nos cœurs. Et il dit, les uns sont le long du chemin, hein, verset 15, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient. Vous voyez? Aussitôt Satan vient et enlève cette parole. Ah, Satan est contre la parole de Dieu. Et dès que, vous voyez, il y a quelqu'un qui s'approche de Dieu, un jeune chrétien qui commence à dire « ça m'intéresse, je suis ouvert, hein, Dieu peut faire des choses dans ma vie », il vient à l'église, il sort à l'extérieur et il y a quelqu'un qui arrive et lui dit « arrête, tu vas pas croire à ces âneries, allez viens boire un coup avec nous ». Hop, Satan vole et c'est oublié. Satan est un voleur. Il faut que vous le sachiez. Si vous ouvrez votre cœur à la parole, alors Dieu va pouvoir travailler et vous allez tenir. Mais il y a des pièges dans la vie, parce que Satan est toujours derrière. Il y a les pièges, de pas considérer la parole. Vous savez, la parole se met sur un chemin, ça veut dire on la laisse de côté. Hein? J'écoute la parole, je viens à l'église, mais après je sors et je vis ma vie. Et la parole ne peut pas travailler. Mais il y a aussi celui qui la reçoit avec joie, là. Mais malheureusement, il n'a pas de racines. Quand les problèmes viennent, les situations adverses viennent, il n'y a pas de racines. Vous savez qu'Abraham a été testé. Vous savez que vous êtes testé, je suis testé. Dieu nous teste pour voir si notre foi est solide. Il se dit, si je teste ma fille, mon fils, eh bien, il va pouvoir tenir dans l'adversité. Donc, je vais pouvoir lui confier plus. On est testé. On a des tests, ça veut dire des épreuves. Un chrétien, comme le monde entier, a des épreuves. Mais nous, nos épreuves, Dieu les fait tourner à notre bien. Parce que le monde, souvent, est écroulé devant les épreuves. Il est détruit devant les épreuves. Hein, il y a des gens qui ont passé par des épreuves très douloureuses. Je les ai retrouvés sur le caniveau. C'était terminé pour eux. Ils n'ont pas surmonté l'épreuve. Ils ont laissé Dieu de côté. Ils sont partis d'un autre côté. Mais quand nous, on est bien enraciné dans le Seigneur, qu'on choisit notre esprit, que la parole travaille en nous, l'épreuve vient, on sera comme Abraham, pas de retour en arrière. Je reste stable. Et ça établit des racines en vous. Ça vous enracine. Alléluia. Dans le Seigneur. Vous savez que Dieu, c'est son travail par le Saint-Esprit de nous enraciner. Une personne bien enracinée, eh bien, les orages pourront venir, le vent pourra souffler, rien ne pourra détruire sa maison. Qu'est-ce que c'est la maison? C'est votre tout. C'est votre vie, votre mari, votre femme, vos enfants, votre famille, votre communauté, votre pays, c'est tout. Rien ne pourra l'ébranler. Je dis que c'est ça la maison. Hein, c'est pas uniquement vous, mais c'est tout ce qui vous appartient. C'est pourquoi quand il n'y a pas de racines, eh bien, le diable, ça lui est facile de voler. Il est contre la parole. Alors il y a aussi, attention, le troisième cas où la personne, eh bien, elle va lâcher l'esprit. Elle est esprit. L'esprit se nourrit de la parole. L'âme a le choix de choisir et de comprendre qui doit être nourri, mais il lâche ça pour s'occuper de l'argent, pour s'occuper des affaires et pour convoiter les richesses. Et à ce moment-là, les soucis de la vie, pof, font que ils abandonnent. Et vous avez cette troisième étape. Qu'est-ce que c'est cela? Ça veut dire que quand vous choisissez de prospérer de la mauvaise façon, que vous convoitez, que vous avez des désirs de réussir sans vous soumettre à Dieu, qui va vous conduire dans la sagesse, qu'est-ce qui se passe? La convoitise va venir, l'amour des richesses, l'amour de l'argent, qui est, la Bible nous dit, l'amour de l'argent. Non pas l'argent, mais l'amour de l'argent est un sujet de maux, de soucis, de problèmes, eh bien, cette personne ne prospérera pas avec Dieu. Et qu'est-ce qu'elle va? Elle va abandonner la parole. Et la parole ne prospérera pas dans sa vie, donc elle va se séparer de Dieu. Mais il y a cette bonne terre, et je voudrais simplement vous dire, regardez, elle produit. Quand Dieu, par sa parole, agit dans notre cœur, il y a une production de bonnes choses. Vous changez, votre esprit s'ouvre, vous avez une vision plus grande, vous avez une motivation plus grande, vous pouvez entreprendre des tas de choses parce que Dieu veut vous bénir et vous faire prospérer. Et vous produisez de bons fruits. Les uns c'est 30, les autres c'est 100, les autres c'est 1000, ça n'a pas d'importance, le fait c'est de produire quelque chose, parce que la récompense vient de ce que Dieu nous a, on peut dire, suscité. Dieu a suscité ses désirs. Dieu a suscité en nous cette capacité. Donc on lui rendra toute la gloire. On peut dire aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je rends gloire à mon Dieu. Tout ce que j'ai, vous savez, à un moment donné, il y a des choses que j'avais à moi, que je ne voulais pas donner à Dieu. Et un jour, Dieu a ébranlé ces choses. Et j'ai dit, tiens, mais je peux les perdre. Et à ce moment-là, j'étais une jeune chrétienne et j'étais catastrophée. Et je suis allée vers une servante de Dieu qui m'a dit, donne tout ce que tu as à Dieu. Ah, c'est que c'est évident. Oui, oui, mais c'est pas évident quand on est dans les problèmes. Et je réalisais que j'avais pas donné au Seigneur tout ce que ce quoi je tenais à ce moment-là. Et donc cette parole m'a touchée. Je suis allée vers Dieu et j'ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux. Je me soumets à toi, je te donne tout. Je te donne ce bien, je te donne ça. Ça n'a pas d'importance après tout. Fais ce que tu veux. À partir de là, tout est rentré dans l'ordre, je n'ai jamais rien perdu. Mais vous voyez, il faut passer par ces étapes quelquefois. On passe par des moments où on est secoué, on a peur de perdre quelque chose ou quelqu'un même. Et on se bat, et Dieu dit, oh, donne-moi tout ça. Tu le gardes, c'est pourquoi tu as des combats. Il y a des gens, ils se battent dans leurs affaires. Vous savez, Dieu ne nous a pas appelés à être dans les tourments quand on a des entreprises. Quand nos entreprises sont dans les mains du Seigneur, c'est vrai qu'il y a des soucis, il y a des pressions, attention, je ne veux pas minimiser. Mais Dieu nous a appelés à être paisibles dans nos affaires. Si nos affaires lui appartiennent, il en est le responsable. Il faut libérer sa foi dans ce domaine. Et quand on a mis nos affaires dans les mains de Dieu, alors il y a bien sûr des combats et des pressions, hein, faut pas croire que c'est facile, mais il n'y a pas l'inquiétude de perdre, de ne plus avoir. Vous savez, parce que tout est dans les mains du Seigneur. Et on lui fait confiance. Amen. Pourquoi? Parce qu'on nourrit, notre esprit. On se nourrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous Jean 1. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Il a libéré une parole de vie puissante. Il est venu avec la vie éternelle et il a dit, ceux qui ont reçu ma parole, ils ont la vie éternelle. Ceux qui, alors donc, vous voyez, quand vous avez la parole de Dieu, que vous vous nourrissez tous les jours, que vous aimez votre Bible, que vous choisissez une belle Bible. Hein, moi j'ai une belle Bible, j'en ai deux même, et j'affectionne celle-ci, elle va bien, j'ai du plaisir à la lire. Quelquefois, vous savez, on change de Bible. J'avais mon autre Bible, elle était bien écrite de partout, depuis des années je l'avais, et je recevais plus rien. Je la lisais, je disais, mais j'ai plus de plaisir à lire ma Bible. Et puis d'un seul coup, j'ai dit, faut que je m'en... Elle a fait son temps. Elle a fait son temps. Et j'ai racheté cette Bible-là. Et alors là, je la dévore. Je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire que Dieu nous donne une autre révélation, peut-être une autre connaissance au travers de nouvelles Bibles. Hein, et j'ai du plaisir à lire cette Bible. Allez savoir pourquoi. Mais en tous les cas, bon, c'est mon expérience, c'est peut-être pas la vôtre. Hein. Il y a des gens qui gardent leur Bible toute leur vie, mais moi je les garde aussi, ces Bibles. Mais j'avoue que Dieu est prêt pour me donner des choses nouvelles dans cette nouvelle Bible. Amen. Affectionnons notre Bible. Lisons-la avec joie. Quand vous vous mettez avec votre Bible chez vous, dans un moment où vous êtes tranquille, ou le soir avant de vous endormir, ah, je vais passer un moment avec mon Dieu. Il va changer mes pensées. J'ai eu des pensées toute la journée, hein. J'ai été inquiète pour ci, j'ai eu ça, j'ai couru là, j'avais l'impression de ne pas arriver à faire tout ce que j'avais à faire. Oh, je prends ma Bible. Et là, je me nourris. Hein, je me nourris dans le Nouveau Testament. Je lis un peu les histoires des grands patriarches et puis je vais dans les psaumes, je vais un peu dans Ésaïe. Oh, je reçois tout de suite de la paix, je reçois tout de suite ce contact avec Dieu. C'est pour tout le monde. Je nourris mon esprit. C'est ma responsabilité. Amen. Quelques mots encore, chers amis. La puissance de notre être intérieur, c'est la semence. Et la semence, c'est la parole. Alléluia. Et la parole, je fais le choix de la recevoir. Alléluia. Parce que cette parole me donne de l'autorité. Rappelez-vous, lorsque les disciples sont passés devant un figuier, que Jésus a libéré une parole d'autorité. Il a séché le figuier par sa parole. C'est sa parole, c'est la parole qui est sortie de sa bouche avec l'autorité du Saint-Esprit qui a détruit quelque chose qui n'était pas bon. Vous voyez, qui avait des racines et il l'a déraciné par sa parole. Votre parole a autorité. Alléluia. Quand vous êtes nourri de la parole de Dieu, vous allez prier, vous allez parler avec autorité. Vous pouvez parler à une montagne. Alors une montagne, c'est quoi? Elle n'a pas de racines, la montagne. Hein, Jésus a utilisé la montagne, il a utilisé aussi un arbre figuier pour nous montrer qu'il y a des choses qu'il faut bouger. Par la foi, une montagne, elle n'a pas de racines, mais les arbres, ça représente ce qui a des racines et qu'il faut déraciner. Ça nous parle quelquefois de l'amertume, ça nous parle des choses que, des mauvais souvenirs, de la mauvaise façon de voir la vie. Vous savez, hier on a parlé, une parole de Churchill qui m'a beaucoup frappée, parce que j'ai trouvé que ça allait bien avec le message que j'avais hier, c'était, Churchill a dit... la façon dont nous regardons notre passé va nous permettre d'avoir un futur puissant. Et je me suis dit, oh là là, combien d'entre nous ne peuvent pas regarder en arrière parce que le passé les accuse, parce que le passé les détruit, parce que le passé est trop douloureux. Alors j'ai dit, le Seigneur va nous donner un nouveau regard sur notre passé. Non pas un passé où on voit que les choses douloureuses qui nous accusent, mais on va voir au contraire combien on a été courageux, combien on a été tenace, combien on a tenu ferme, combien on a avancé, combien on a fait des bons choix. Et la façon dont on va voir notre passé en nous disant « Monique ou Laurent, tu as bien travaillé, tu as bien œuvré, tu es là aujourd'hui, tu as fait les bons choix, tu as été vainqueur dans tes épreuves, tu as été vainqueur dans tes combats, alors regarde devant toi avec tout ce que tu as acquis. » Tu vas être puissant dans ton avenir. Vous ne trouvez pas que c'est juste? Mais si je regarde dans mon passé et que je pleure sur toutes les bêtises que j'ai pu faire, je n'aurai pas de force pour mon avenir. C'est pourquoi Dieu nous donne un nouveau regard. Alléluia. Hier, on a reçu un nouveau regard, je le crois. Et il faut garder ce regard. Et quand vous lisez votre Bible, vous recevez un nouveau regard. Amen. Vous recevez quelque chose où Dieu vous dit « Mais je t'aime, mon fils, ma fille. Je suis mort pour toi, alors va de l'avant. Vous savez, on a lu tout à l'heure ce passage dans 1 Thessaloniciens 5, 17, et on nous dit que soyez gardés saints, hein, votre esprit, votre âme, esprit, âme et corps, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est-à-dire, Dieu ne dit pas afin que tu sois en vacances et que tu sois cool. Non, non, service sur la terre, service. Partout, il y a le service. Dieu a besoin de vous, Dieu a besoin de nous. Il a besoin d'hommes et de femmes forts, pas d'hommes et de femmes culpabilisés, déprimés et malades dans leur personnalité. Dieu sait qu'on peut être malade dans sa personnalité. Alors, dans le temps, ça prend du temps, ça prend du temps, soyons patients, il va restaurer nos personnalités. Il va restaurer notre âme. Il l'a fait pour moi, alléluia, et il le fait pour mes frères et sœurs. Et il le fait pour tout le monde, parce que Dieu est le Dieu de la vie. Il vient restaurer l'âme des pécheurs, afin que nous soyons des fils et des filles. Non plus des pécheurs, mais des fils et des filles. Pierre, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Alors ne te t'accuse pas. Aime-moi avec l'amour que tu as, et sur le chemin, je vais faire de toi un pécheur d'hommes avec l'amour agapé de Dieu. Tu vas être un puissant apôtre de Dieu. Ah, Dieu s'occupe de tout. Mais il veut que nous prenions les décisions. Il veut notre choix. Il veut notre oui. Il veut que nous coopérions. Il veut que nous adhérions. Alléluia. Est-ce que ça vous bénit ce matin? Alléluia. Choisissons le camp de Dieu. Alléluia. Donc, je vais terminer là sous peu. On va prendre Colossiens. Oui, je vous ai parlé hein, de déraciner en ordonnant à l'amertume de partir. Comment vous déracinez ce qui est mal, qui fait du mal dans votre âme? Les mauvais souvenirs, les douleurs, il faut les déraciner. Il faut leur parler, leur dire « pars de mon âme ». Culpabilité, accusation, pars, je te déracine. Je veux une bonne terre dans mon cœur. Je veux cette terre porte de bons fruits. Amen. Regardons Colossiens 3, verset 15. Colossiens 3, verset 15 nous dit quelque chose de très très bon, qui est en fin de compte le résumé de ce que je suis en train de vous dire. Ainsi donc, verset 12, comme des élus de Dieu, des élus, des choisis, hein, des gens élus, vous êtes élus, je suis élu, vous vous rendez compte, on a gagné, on a réussi, on est choisi par Dieu. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, vous vous considérez comme des pécheurs? Ben pas moi. J'ai péché dans le passé parce que je ne connaissais pas Dieu. Aujourd'hui, je suis saint, ça veut dire mis à part par Dieu et pour Dieu. C'est ça, je suis sanctifié, vous êtes saint, je suis saint. Regardez-vous comme Dieu vous dit. Est-ce que vous voyez comme des pécheurs, des gens incapables ou des gens faibles ou si? Non, vous êtes des saints, ça veut dire des gens mis à part, sanctifiés par le Saint-Esprit et bien aimés de Dieu, très aimés, vous êtes aimés, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas abandonné, vous êtes aimé. Dieu veut que vous l'aimiez premièrement, de toute votre âme, de tout votre cœur, de tout votre esprit. Après, quand vous serez passé là, il vous donnera à aimer votre futur mari, votre future épouse, si vous ne l'avez pas encore. Mais premièrement, Dieu veut que vous l'aimiez, lui, de toute votre âme, de tout votre cœur, de toute votre pensée. Amen. Et alors, il dit... Vous êtes saints et bien-aimés. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ah voilà, oui, c'est ça. Alors, j'en viens à mon sujet. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés comme pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Le verset que je voulais qu'on voit, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. En tant qu'Église de Jésus-Christ, Dieu nous dit, il parle à une communauté là, hein, et il dit, il ne parle pas à une personne, il dit à toute cette communauté que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. C'est ça, l'Église, elle a la parole, elle a la lumière, et que cette parole habite en nous abondamment. que chacun de nous, ça veut dire pas seulement une personne, mais tout le monde, que nous ayons ce désir, cet amour pour la parole et que nous soyons des hommes et des femmes de la Bible, que nous aimions ouvrir notre Bible chez nous, pas seulement à l'église. Que la parole habite abondamment en nous. Regardez. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'impulsion de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole et en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. J'écoutais un serviteur de Dieu d'Amérique du Sud, puissant homme de Dieu qui a des miracles, des résurrections extraordinaires. Il disait, moi, je passe 2 heures en prière, mais sur les 2 heures, je passe plus d'une heure à chanter en langue pour adorer Dieu. Chantez en langue pour adorer Dieu. Hein? Entretenez-vous par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Chantons en langue, alléluia, pour adorer Dieu. Ça, c'est puissant. Quand en tant qu'église, on chante en langue, on adore Dieu, c'est très puissant. Et quand chez vous, qu'est-ce qu'il y a chez vous? C'est comme chez moi. Pourtant, c'est un lieu de prière chez moi. Mais il y a toutes sortes d'agressions dans les pensées. Il y a toutes sortes d'occupations, il y a toutes sortes de situations, il y a un truc qui marche pas là, il faut téléphoner à droite, il y a toutes sortes de problèmes. On a tous les mêmes problèmes à régler dans une journée. Qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez dans votre chambre de prière et vous êtes assailli par les pensées. Vous n'arrivez même pas à vous concentrer. Hein? Ça arrive. Dites-vous bien qu'on a tous le même combat. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à ouvrir votre Bible et « Seigneur, j'ai besoin de ta pensée, j'ai besoin de ta pensée ». Et vous commencez à chanter dans l'esprit. Vous cherchez une mélodie, hein, ou un psaume, ou un hymne, ou un cantique de l'église qui vient, et vous commencez. Et puis après, vous allez de plus en plus fort, et vous y allez plein pot. Hein. Et je vais vous dire, les démons disent, ouah, on fuit, on la laisse tranquille. Elle est en train de nous passer un savon. C'est comme ça. Et on entre dans la prière. Hein? Peut-être vous entrez directement dans la prière. Ça n'a pas d'importance. Hein? On suit le Saint-Esprit. Mais voyez, on a tous le même combat. Et ce soir, on va s'arrêter là, ce matin, pardon, et on va avoir un moment de prière. Alléluia. De louange et d'adoration devant Dieu. Par l'Esprit. Alléluia. Parce que votre âme, rappelez-vous, je termine, elle a le choix. Elle choisit. Quand je choisis d'obéir à ma chair, eh bien, vous lirez votre Bible dans Romains, la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Dans Galates, pardon. Hein? Ils ont des désirs contraires. Eh bien, je choisis de me soumettre à ce Dieu de ce monde qui est Satan, qui gouverne tout ce qui est charnel. Et la pensée de ce monde est contraire à la pensée de Dieu. Vous me suivez? Mais quand je choisis de me nourrir, et que j'aime cette nourriture parce que Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », ça veut dire l'homme, l'être spirituel que je suis, pas uniquement l'être physique, l'être spirituel a besoin de se nourrir tous les jours. Alléluia. Alors je termine. Vous êtes esprit et votre esprit a une âme. Vous êtes esprit et votre esprit possède une âme. Et vous vivez dans un corps. Amen. Le monde vit dans le corps. Il vit par son corps. Il ne voit que le corps. Il ne connaît pas les choses de l'esprit. Mais vous êtes esprit. Votre esprit possède une âme et votre âme et votre esprit vivent dans un corps. Amen. C'est ce que Dieu a voulu pour nous, esprit, âme et corps. Alors reconnaissez-le, vous êtes 3 parties et affectionnez-vous aux choses de Dieu. C'est votre décision. Les choses de l'esprit, elles vont se développer quand vous les choisissez. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour ta parole, parce que ta parole nous fait du bien. Alléluia, elle nous instruit. Combien elle est importante dans les jours et dans les temps dans lesquels nous vivons. Combien nous en avons besoin afin que notre esprit soit toujours bien nourri et que notre âme fasse les bons choix. Plus mon âme se nourrit de la parole de Dieu, plus je sais faire les choix et je discerne quelle est la volonté de Dieu pour moi. Plus je me nourris, eh bien plus je sais et je vois combien ma vie s'améliore, combien j'ai de l'autorité, combien j'avance avec foi, combien je fais les choix de Dieu et combien je vis dans la volonté parfaite de Dieu. Mais si je manque de nourriture, mon esprit va s'affaiblir, et mon âme va choisir le camp de la chair, et ma chair va prendre des forces, et elle va me conduire vers des problèmes. Et à ce moment-là, eh bien, je n'aurai qu'à me repentir et revenir sur le bon chemin pour marcher avec Dieu. Alléluia. Père, je prie ce matin que tu nous aides à mettre en pratique cette parole afin d'aimer ta parole. C'est cela ma prière, c'est que nous aimions la parole de Dieu. Donne-nous plus d'amour pour la parole, Seigneur. Donne-nous plus de désir de la lire. Donne-nous plus d'attention sur cette parole, en sachant que c'est la seule nourriture pour notre esprit sur cette terre. Tant que nous avons les deux pieds sur cette terre, nous aurons besoin de nous nourrir tous les jours de la parole de Dieu. Vous savez, on a sorti un livre qui s'appelle « Vivre longtemps, finir en beauté hein ». Alors c'est un livre, il est impressionnant. Mais l'auteur dit une chose importante, elle a fait des études sur tous les centenaires. La plupart des centenaires sont des gens qui ont une foi en Dieu et une sagesse pour vivre avec simplicité sous le regard de Dieu. Beaucoup de ces centenaires, 120, 130 ans, eh bien, passent leur temps fidèlement à aller à l'église et à choisir une bonne vie avec sagesse. Et Dieu leur a donné une longue vie et les a fait prospérer. Il y a un homme hein, qui a plus de 130 ans, hein, qui est un chrétien authentique. Il a vécu des choses terribles. Et il a vu son père être lynché en Alabama avec les choses terribles de racisme qu'il y a eu aux États-Unis, tout ça. Il a vu sa famille souffrir. Il a perdu beaucoup de choses. Il est passé par des épreuves terribles dans cette société de l'époque. Hein. Et puis, il aimait le Seigneur, il a tenu ferme. Et ensuite, Dieu l'a élevé. Hein, et il a marché avec sagesse. Et il parle de lui dans ce livre et il dit combien, eh bien, aujourd'hui à 130 ans, eh bien, tout ce qu'il a acquis dans son passé, il le garde dans son cœur et il aime la vie, il aime les gens, il aime la société, il fait sa marche tous les jours, il a sa mémoire qui fonctionne bien, ses yeux comme Moïse qui voit bien, parce que sa foi a toujours été activée. Amen. C'est la même chose pour nous si on le veut. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons chanter dans l'esprit tes louanges ce matin tous ensemble, d'un seul cœur, nous voulons t'apporter notre louange et notre reconnaissance. Tu as dit, soyez reconnaissants en toutes choses. Alors Seigneur, nous voulons être reconnaissants ce matin. Alléluia.